bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Bonjour Maurice.
Bonjour Jean-Paul.
Tout au long des émissions que le Grémos a présentées jusqu'à maintenant, il y en a une seule qui s'était intéressée à la présentation d'un lieu et à l'évocation de la vie ouvrière dans ce lieu. Ce fut une émission qui nous avait emmenés dans le quartier du Marais à Saint-Étienne avec Jacques Roux et Daniel Colson. Alors avec Maurice aujourd'hui, on va revenir là-dessus en parlant d'un lieu emblématique qui est le puits de Cambefort, qui reste à la fois un témoin de l'extraction minière, un témoin de la grève des mineurs de 48, et vous verrez aussi qui est un lieu très présent actuellement pour une autre raison dont on parlera à la fin de l'émission. Alors Maurice, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire où se trouve ce puits et quelle a été son activité ?
Oui, c'est une invitation à nous tous là, à nous rendre sur ce lieu qui se trouve, alors très étrangement, sur la commune de Roche-la-Molière. Tout le monde considère que le puits Cambefort appartient à la commune de Firminy. Ben non. La limite entre les deux communes passe justement sur le chemin en bordure du puits Cambefort. C'est l'ancienne route royale entre le puits et Saint-Étienne. Et d'un côté, Roche-la-Molière, de l'autre côté, Firminy. Et ce puits, ce site, domine d'une façon assez extraordinaire toute la vallée et tout l'ensemble Firminy-Unieux. Alors, c'est vrai, c'est un puits de mine, c'est un ancien puits de mine. D'habitude, quand les gens veulent avoir un petit peu la vision d'un espace minier, ils se rendent au puits Couriot, dans un musée. Mmh. Et bien là, je vais dire qu'on a une chance extraordinaire. C'est que l'on a un site, des bâtiments, qui sont presque tous restés en l'état depuis leur fermeture des années 60-63. Et que c'est par la magie du réemploi des locaux que ces locaux ont été maintenus jusqu'à aujourd'hui. Alors, revenons peut-être sur le passé glorieux minier du puits Cambefort. C'était un puits qui appartenait au début à la division Manafoli, c'est-à-dire une division qui se trouvait dans la compagnie de Roche-la-Molière-Firminy et qui travaillait avec les autres puits de l'Ondaine. Alors aujourd'hui, rien ne laisse le supposer, mais nous avions de l'autre côté de la route un très gros ensemble industriel qui était le criblage du puits du banc. Parce qu'il faut savoir que quand on extrait du charbon, bien, le charbon n'est pas utilisable en l'état, il faut le trier, il faut le cribler. C'était un très gros bâtiment qui avait été installé en 1911, qui avait été rénové en 1926, et qui permettait d'obtenir deux types de charbon. Des charbons qui étaient utilisés pour être transformés en agglomérés, les agglomérés étaient beaucoup utilisés dans les entreprises de la région, dans des fours Copper qui étaient à proximité. Et puis l'autre partie de la production était utilisée dans la centrale Saint-Thomas, qui était tout à fait à côté, mais sur la commune du Chambon-Feugerolles. Et puis, bon, ben, bien sûr que les meilleures qualités étaient livrées pour la commercialisation. Donc, en face du puits Cambefort, un gros bâtiment qui était le criblage du banc. Et puis alors, tout à fait dans la vallée, au fond, le puits Montera, numéro 2, qui était un autre puits d'extraction. Les deux puits étaient en relation. Le charbon remontait par le puits Cambefort et sur le puits de Montera, il y avait toutes les installations, tous les ateliers, notamment le reformage des berlines, le reformage à chaud et puis tout ce qui touche les travaux électriques.
D'accord. Alors, ce puits, les mineurs lui ont donné un autre nom qu'ils l'ont appelé le puits Antonin Barbier, et ça a un rapport avec la grève des mineurs de 1948, sur laquelle, avec Jean-Michel Stenner, Jean-Claude Monneret et Corinne Porte, vous avez écrit un ouvrage intitulé « 1948, les mineurs stéphanois en grève ». Alors, Peut-être tu pourrais nous donner quelques éléments du contexte, peut-être local, national et international de cette grève.
Oui. Alors, le lieu était un lieu extrêmement important de production. Hein. Ce n'était pas un puits secondaire. Il y avait 500 mineurs qui y travaillaient dans l'après-guerre, là, dans les années 46-48. La production était extrêmement importante parce qu'il y avait trois tranches de charbon qui étaient exploitées. On remontait à peu près 1500 bennes de 800 litres par jour. Mmh. Donc, un lieu qui regroupait beaucoup de travailleurs, entouré par un espace ouvrier extrêmement important. Aujourd'hui, on a de la peine à s'en faire une idée, avec les entreprises métallurgiques de Firminy, Holzer et Verdier, et avec toutes les usines du Chambon-Feugerolles. Donc, un contexte métallurgique et un ensemble ouvrier assez extraordinaire. Mais on est bien là, en 48, avec une grève, comme tu le disais, qui était une grève qui plaçait la problématique des mineurs au premier plan. Alors, qu'est-ce qui se passait ? D'ailleurs, première chose, on pourrait dire que nous étions dans une période où le malaise social était extrêmement grave. Le prix de détail de l'alimentation augmentait très très rapidement à cette époque. Et entre juillet et août 48, les prix de détail de l'alimentation avaient augmenté de 43%. Ce qui fait que si on les. De 4,3%. Ce qui fait que si on ramenait sur une hausse sur l'année, on était à quelque chose de 60%. Et dans le cas strictement parlé des mineurs, même la compagnie, même les houillères reconnaissaient que le niveau de vie des mineurs s'était beaucoup détérioré. Dans un rapport des houillères de 1948, j'ai pu lire: la hausse très importante du prix de la vie est venue très rapidement annuler le bénéfice des augmentations de salaire de décembre 1947. On était dans une espèce de rattrapage continuel entre les hausses des produits et les hausses des salaires. Alors, à partir du mois de juin, les grèves ont commencé.
Je te coupe une minute. Alors qu'on avait demandé beaucoup à ces mineurs, avec donc la bataille de la production.
Bien sûr. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Les mineurs, tout d'un coup, s'estimaient un petit peu floués parce qu'ils avaient véritablement joué le jeu de ce qu'on leur avait demandé en faisant des doubles journées. Mmh. Parallèlement, le gouvernement se méfiait, le gouvernement de Jules Moch.
Alors, peut-être encore un petit... Si on peut remonter un petit peu plus loin, tu parles du gouvernement de Jules Moch, oui. C'est-à-dire que on n'a plus le gouvernement tripartite avec le MRP, l'ASFIO, c'est-à-dire le Parti Socialiste de l'époque, et le Parti Communiste, mais en fait, le Parti Communiste ne fait plus partie de ce gouvernement.
Oui.
C'est en France... les conséquences du début de la guerre froide.
Tout à fait, tout à fait. Et avec, en 1948, un ministère socialiste, donc ministre de l'Intérieur, qui était Jules Moch, qui a vraiment orchestré cette méfiance contre le communisme d'une façon assez extraordinaire. Dans ses déclarations à l'Assemblée, il expliquait qu'il savait, par ses informateurs, qu'il y allait y avoir une grève, que les mineurs allaient être des éléments déterminants dans cette grève, et que cette grève était probablement orchestrée par les communistes de Moscou. Car en réalité, et on ne va la voir le document de Jnanov qu'en novembre, mais il était en la possession de Jules Moch, il y avait une véritable panique en France, à savoir que l'on craignait que les mêmes événements qui s'étaient passés en Tchécoslovaquie se reproduisent en France.
Le coup de Prague de Tchécoslovaquie.
Le coup de Prague. Mmh.
Alors voilà le coup de Prague qui est une prise de pouvoir par le Parti communiste tchécoslovaque, alors qu'il y avait un gouvernement qui était un gouvernement de gauche démocratique.
Et puis, autre élément de vexation pour les mineurs, mais de vexation, le mot n'est pas assez fort, ce sont les décrets Lacoste qui ont été pris le 18 septembre et qui vont accentuer cette fracture entre mineurs et gouvernement, puisque un grand nombre des éléments du statut du mineur qui avaient été octroyés aux mineurs à l'occasion de la nationalisation sont remis en cause. Voilà les éléments principaux qui expliquent le conflit.
Alors peut-être, moi je réinvite nos auditeurs à aller lire le livre. Je pense qu'on pourra en redonner les références à la fin, votre livre. Je pense qu'on pourra en redonner les références à la fin de l'émission. Peut-être tu pourrais maintenant, dans un premier temps, nous parler de comment ça se passe à Saint-Étienne, c'est-à-dire comment la grève commence et comment les forces de police et même l'armée arrivent pour réprimer cette grève.
Oui. Alors à partir du 28 septembre 1948, les syndicats appellent à la grève, à une grève d'ampleur nationale. Mais le problème, c'est que les syndicats ne sont pas d'accord sur les modalités. La CFTC entend réaliser une grève de 48 heures et la CGT entend réaliser une grève illimitée. Et en définitive, la CGT va faire le choix de prendre de court les autres organisations syndicales et ils organisent le 28 septembre un référendum à l'emplacement des puits auprès des mineurs qui étaient venus travailler ce jour-là. Et le résultat est sans appel, il y a à 98% une demande à faire grève. Et à partir du 4 octobre, réellement, la grève est totale.
Alors, y compris avec des mineurs CFTC puisque FO existe à l'époque ou non ?
Alors voilà, ta question à propos du département de la Loire est fondamentale, puisque au plan national, la CFTC avait décidé d'une grève de 48 heures et ils s'y sont tenus, alors que l'équipe de la Loire a décidé de s'aligner et de continuer la grève sur la durée au moins jusqu'au 17 octobre.
D'accord. Ouais.
Donc cette grève devient effective avec, dans ces premières journées, l'acceptation des services de sécurité. C'est-à-dire que certains mineurs qui étaient désignés par les syndicats étaient autorisés à descendre pour s'occuper du pompage, de l'entretien des galeries et également, il ne faut pas l'oublier, de la nourriture des chevaux qui étaient restés au fond.
Qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne ? Alors, je ne sais pas, il va y avoir des affrontements. Moi, j'ai reparcouru votre livre là, récemment. Il va y avoir un certain nombre d'affrontements. Et il me semble que les premiers affrontements se passent à Saint-Étienne ?
Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la résistance des mineurs surprend. Le patronat, les houillères, estimaient que ça serait une grève comme les autres, c'est-à-dire une grève d'avertissement qui durerait un jour, deux jours. Mais, en fait, tout d'un coup, on s'aperçoit de la détermination des mineurs. Or, les houillères ne veulent pas négocier. Et c'est là que on a la conviction que les syndicats ont pris la mesure de ce qui s'était passé en 1947 et s'organisent.
Il faut que tu dises quelques mots de 1947.
Alors, un an auparavant, effectivement, la grève a eu lieu, mais une grève qui avait été une grève de toutes les corporations. Et ce n'était là que les mineurs parmi les autres, les métallurgistes avaient joué un grand rôle. Et cette grève de 1947 avait fait planer sur la préfecture de Saint-Étienne une frayeur très grande, parce que on s'était aperçu que pour la première fois, il n'était pas certain que la troupe qui avait été appelée se continue à maintenir l'ordre et ne tourne pas la crosse et ne se tourne pas avec les grévistes. Alors là, eh bien, le comité des grévistes de la Loire s'organise, un comité de grève composé d'une vingtaine de personnes qui siègent en permanence à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, qui chaque jour rédige un communiqué qui fait le diagnostic sur l'état de la grève et qui indique les perspectives à atteindre dans les jours qui viennent. Parallèlement, le préfet Berthaud, Jules Moc, avait nommé un certain nombre de super-préfets, et là nous avions un super-préfet qui était installé à Lyon, le super-préfet Berthaud, qui définit très rapidement la stratégie de reconquête des puits. Par les documents des renseignements généraux, on s'aperçoit que nous avions une stratégie qui était de type militaire, avec l'appel d'un grand nombre de forces, les CRS, les gardes mobiles et même la troupe, qui vont vouloir faire un exemple dans le bassin de la Loire. Alors, les premiers puits qui vont manifester les premiers puits sur lesquels la troupe intervient, ce sont les puits de Rochamolière, avec le puits Gruner et le puits d'Olomieux. Puis, c'est le 18 octobre. À partir du 19 octobre, les troupes se rendent au puits Charles, toujours sur Rochelamolière, avec l'intention d'aller sur le lieu qui paraît le lieu le plus important, qui est la vallée de l'Ondaine.
D'accord. Je reviens un tout petit peu en arrière et je pose une question qui, il me semble que vous l'avez posée dans votre livre. Est-ce que si on compare 48 et 47, les mineurs sont manifestement très bien organisés en 1948, mais est-ce que la CGT n'a pas essayé d'entraîner dans le mouvement, tu parlais des métallurgistes tout à l'heure, est-ce qu'il n'y avait pas dans l'idée de la CGT l'idée d'une grève générale, parce que les mineurs se sont retrouvés seuls d'une certaine façon?
Oui, alors peut-être qu'il y avait cette idée d'une grève générale, mais très rapidement, les métallurgistes ont refusé. Et les métallurgistes ont dit qu'ils acceptaient, par exemple, de donner une journée de travail,
oui,
hein, parce que la solidarité a très vite fonctionné, mais on se méfie de cette aventure dont on n'est pas certain qu'elle aille vers une réussite.
Donc quand même, les mineurs vont se retrouver, alors, entourés par la solidarité financière, mais ils vont se retrouver seuls à subir le choc.
Oui, c'était une grève des mineurs, exclusivement. D'accord. Et en France aussi.
Alors, on a parlé... je crois qu'il y a eu aussi... tu as parlé de Rochelamolière, que la stratégie visait la vallée de l'Ondaine. Il me semble qu'il y a eu quelques... Vous faites état de quelques bagarres à Saint-Étienne, en particulier, il me semble, dans le quartier du Soleil, non ?
Ah, bien sûr, bien sûr. Le cas des puits du Soleil, là, était un cas un petit peu particulier. C'était des puits extrêmement anciens et ils étaient les plus menacés parce que peu profonds, ils allaient être les puits les premiers ennoyés. Et l'intervention du préfet souhaitait sauver ces puits. Et puis ça s'est avéré impossible. Alors les bagarres ont eu lieu, effectivement, autour du puits Villiers, c'est-à-dire aujourd'hui approximativement sur la plaine Achille, là, tout au long du boulevard Jules Vanin, deux journées d'affrontement très sévères, où l'on voit pour la première fois les CRS utiliser les gaz lacrymogènes.
D'accord. Mais donc, ce qui va être la grande affaire, quand même, c'est ce qui va se passer autour du puits Camphort.
Alors bien sûr, hein, c'est les deux journées qui sont restées dans les mémoires, les deux journées du 21 et du 22 octobre. Alors le jeudi 21 octobre, les forces de l'ordre s'étaient emparées assez facilement du puits Camphort, comme elles l'avaient fait à Dolomieu et comme elles l'avaient fait au puits Charles. Et dans le matin, les mineurs et les métallurgistes se sont présentés pour essayer de reconquérir leur puits, et les premiers engagements étaient extrêmement violents. Un adjudant de gendarmerie a été mis à terre, ses armes lui ont été volées, parce qu'il va y avoir un vrai problème autour de la question des armes. Et malheureusement, cet homme va être blessé très sérieusement, avec la joue déchirée, et cela a été utilisé très, très, très fortement par le pouvoir pour montrer la férocité des mineurs. Pourquoi est-ce que les mineurs tenaient à reprendre ce puits ? Ben, tout simplement parce que il fallait mettre la main sur l'utilisation de l'électricité. On a bien compris qu'il y avait à côté du puits Campfort une centrale électrique, la centrale Saint-Thomas. C'était celle qui fournissait le courant pour permettre de pomper l'eau. Et tant qu'il a été possible de faire de l'exor, de pomper l'eau, le puits était sauvé en quelque sorte. Et le but des mineurs, c'était de reprendre le puits pour interdire ce pompage.
Alors ça veut dire qu'il y a un moment où le comité de grève, enfin je ne sais pas à quel niveau la décision se prend, mais où le comité de grève décide de ne plus assurer les conditions de sécurité dans les puits.
Oui, cette décision a été prise au moment où les troupes sont intervenues dans les bassins de l'Est de la France. C'était D'accord. le 18 octobre.
Et alors c'est une décision générale au niveau national ?
Une décision nationale.
D'accord. Il y avait un comité national de grève ?
Non, il y avait des comités de grève locaux.
D'accord. Alors revenons à Campfort. Donc, on a bien, je crois que tu nous as bien expliqué pourquoi les mineurs veulent reprendre ce puits.
Oui, et le soir du 21 octobre, les soldats étaient complètement épuisés. Et il y avait une espèce de panique qui régnait chez eux parce qu'un bruit courait que les mineurs allaient se manifester à nouveau pendant la nuit. Et là, les soldats avaient la conviction qu'ils ne seraient pas capables, dans la nuit, de faire face.
Ils sont combien, ces soldats ? Vous avez une idée ? Vous avez retrouvé combien ils sont, ces soldats ?
Oui, ils étaient 250.
D'accord.
Rien ne s'est passé pendant la nuit, mais ils n'ont pas dormi. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés le lendemain matin en position de fatigue extrême. Et le 22 octobre au matin, les mineurs attaquent à nouveau, avec beaucoup de violence. Et il s'est passé quelque chose de déterminant. C'est que tout d'un coup, les officiers ont demandé de cesser les combats. Et les délégués mineurs ont accepté de faire une pause pendant une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que l'on débarquait des camions qui étaient fraîchement arrivés, des caisses de munitions.
D'accord. Donc c'était une pause...
C'était une pause stratégique oui. Qui, en fait, va coûter très cher aux mineurs. Alors, si tu veux bien, Jean-Paul, nous avons eu la possibilité, avec Jean-Michel, de rencontrer d'anciens mineurs. Et nous allons pouvoir écouter un de ces anciens mineurs. Il s'appelle Henri André. André est son nom de famille. Il est toujours vivant, il a 85 ans. Nous l'avons rencontré à l'extérieur parce qu'il souhaitait nous montrer les lieux. Et c'était un moment assez saisissant que nous avons eu pris en vidéo, d'être sur les lieux où il a été à l'attaque et où il a été victime des CRS. La qualité de l'enregistrement n'est pas bonne parce que ce jour-là, hélas, il y avait du vent, donc il a fallu un petit peu trafiquer la bande sonore. Mais écoutez-la parce que ça vaut vraiment la peine.
Ils ont dit, il faut arrêter les conneries, là. Ils ont fait appel au CRS. Les CRS, la première fois qu'ils sont venus, ils se sont fait canarder. Hein. Donc, s'ils se sont fait canarder, à coup de cailloux, bon, ce que tu voudras, les fronts, ils ont le choix. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient venus sans la coup de la pression. Ils étaient sans. Et ils sont venus avec un temps d'attaque, comme on peut dire, tu vois. Et à ce moment-là, bon, on a monté de là-bas. Et ben, les CRS sont arrivés de l'autre côté, bon, on a été pris en tenaille, c'est pour ça qu'on a sauté par la guerre.
Ils sont arrivés de nuit, les CRS ils sont rentrés par le portail.
Ah, mais moi je peux pas te le dire parce que nous, ça devait être 4 heures.
Et alors, quel a été votre itinéraire?
Eh bien, je t'ai dit, on a monté par derrière, par derrière la Madone, à Trablème, on a retrouvé la route et on est arrivé sur le plateau. Là. Et quand nous on est arrivé sur le plateau, ben derrière nous, les autres, ils avaient téléphoné, ils sont venus à la route du pays avec le camion. Donc on était entre ceux depuis là, et puis là.
Oui, c'est puis en tenaille.
Et voilà.
C'est pour là que vous êtes redescendu.
Voilà.
Alors tu étais avec ton papa là.
Mais bon, il était à côté de moi.
Et alors, comment se fait-il que toi, qui étais moyennement sensibilisé à la vie
syndicale,
que tu sois parti avec ton père?
Eh ben, je sais pas, on était jeunes, hein, moi j'étais avec le copain, j'étais dit on va casser du CRS, comme il y aura plus de salon, c'était dans la tête des gens et des femmes et tout. Et mon père était à côté. J'ai dit attention au port, ils sont là.
Il y a eu une première période où vous avez sorti de vos poches les cailloux. Et
ah oui, avez... mais mon père il avait encore ça, la forme dans la poche. Hein. Il n'avait pas sorti.
Alors, les gardes mobiles là, étaient derrière des barbelés.
Non.
Ils étaient sur le puits.
Oh oui, ils étaient sur le puits. Et ceux qui arrivaient, ils étaient fusillés à la main. Ça,
ils... Oui, mais ils étaient à l'intérieur du puits ou à l'extérieur?
Ils étaient dans la zone du puits. Hein.
Autour du mur d'enceinte.
Voilà.
Autour du mur d'enceinte. Votre affrontement a duré combien?
Bon, ça n'a pas duré, parce que le temps que nous on arrive et que les autres ils étaient avertis par la compagnie de la très prête, disons, là. Bombir, c'est le cas de le dire, les camions sont arrivés, et je te dis, mon père, et ben, quand le temps qu'il se retourne, il avait le canon de fusil dans l'eau, hein. Et moi, avec le copain, c'est nos gens qui nous ont sauvés, on les a allés, les CRS, ils ont descendu, et nous, on a descendu directement, et eux, ils n'ont pas pris la vraie pente, si
là, c'est la taillée, là.
Ouais, ben, eux, ils ont descendu comme ça, et nous, on a descendu. Donc on y a gagné, et c'est là qu'on s'est retrouvés.
Bien, alors, c'est vrai que la qualité de l'enregistrement n'est pas très bonne, mais que on va dire que ce qui se trouve dans l'enregistrement mérite vraiment que tu le reprennes.
Oui, on a donc compris que Henri André, qui était à l'époque un jeune homme, 18 ans, commençait à travailler à la mine, accompagnait son papa, qui s'appelait Régis, et qui était délégué mineur CGT au Puy Flottard. Donc un personnage qui était reconnu par ça.
Le Puy Flottard, c'est...
Qui était sur le Chambon-Feugerolles, donc d'accord. En contrebas, hein, pas très loin. Et effectivement, il y a pas mal de mineurs du Puy Flottard qui sont venus converger sur Campfort. Alors, accompagnés de tous leurs amis, les métallurgistes, ils sont passés par... la route, la fameuse route dont je parlais tout à l'heure là, qui était l'ancienne route royale de Saint-Étienne au Puy, et ils sont arrivés par le côté est du Puy Campfort.
D'accord.
Et là, la position des soldats était extrêmement inconfortable, parce que de l'autre côté ouest, c'était là que manœuvraient la plupart des autres mineurs.
Ah, d'accord. Il y avait, on peut dire, une attaque convergente.
Une attaque convergente.
Oui.
Et comme il explique dans son interview, là, Henri, il y a eu des informations qui ont été envoyées par radio, qui ont permis aux camions qui étaient restés plus loin en réserve d'arriver derrière eux. Et les voilà que ce petit groupe a été pris en tenaille entre les soldats qui étaient sur le puits et puis les camions qui arrivaient. D'où deux réactions. La réaction des plus jeunes, là, et c'est le cas de Henri, qui a été de prendre la fuite quand ils ont vu qu'ils étaient cernés. Et ils ont choisi la solution la plus extrême, c'est-à-dire pratiquement de descendre dans un endroit complètement à pic dans la forêt, il appelle la taillée,
d'accord,
pour redescendre sur l'usine Claudinon.
En disant que les CRS ne les ont pas suivis.
Alors, il y a des CRS qui les ont suivis, sauf qu'ils n'ont pas été aussi téméraires qu'eux.
D'accord.
Eux sont allés droit dans la pente, alors que les CRS ont zigzagué. Et après, ils se sont trouvés devant un mur de l'usine Claudinon, ils l'ont escaladé. Quand on voit le mur aujourd'hui, on se dit, bon, ils avaient la santé pour escalader ce mur. Ils se sont retrouvés sur les toit à shed de l'usine Claudinon.
D'accord.
Certains se sont blessés parce qu'ils sont passés à travers les verrières, D'autres, et c'est le cas d'Henri, ont réussi à s'en sortir et d'aller se réfugier dans un café. Et dans le café, alors ça il ne le dit pas dans son interview que nous avons diffusée, ils se sont lavés pour enlever toute suspicion et ressortir en disant que non, ils ne faisaient pas partie des manifestants.
D'accord.
Et le papa, lui, a été arrêté et mis dans un camion pour être emmené à Bellevue.
D'accord. Le papa est arrêté, mais on peut parler d'un combat. En fait, le combat va continuer. Ce petit groupe est parti, mais le combat continue là.
Bien sûr. Et c'est sur le Grand Pré, ce qu'on appelle le Grand Pré, c'est-à-dire la partie ouest, où là, on avait, je ne sais pas, 3 à 4 000 grévistes qui étaient rassemblés. Et
3 à 4 000 grévistes et soutien peut-être. Tu parlais de métallurgistes qui les soutenaient.
Oui, tout à fait. Manifestants, en somme.
D'accord.
Et là, le détachement des gardes mobiles avait été un petit peu téméraire parce que les FTP qui se trouvaient parmi les manifestants...
Alors les FTP, il faut... Enfin, normalement, tout le monde connaît les FTP, mais il faut peut-être en dire un mot quand même. Les FTP qui sont là, ils existent encore à ce moment-là, ils sont présents ce jour-là.
Oui, on va dire les anciens FTP de Théo Vialmassa. Théo Vialmassa est avec eux. Et ces anciens FTP se sont placés sur la partie gauche du Grand Pré.
Oui.
Et ils adoptent les techniques qu'ils ont apprises pendant la guerre. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut se coucher par terre, puis se relever précipitamment, courir et se coucher par terre à nouveau. Mmh. Alors que les pauvres manifestants, eux, ce sont des naïfs.
Oui.
Et parce qu'ils croient qu'ils ont le nombre, qu'ils ont le bénéfice du nombre avec eux, ils avancent. Et ils vont bien entendu se faire prendre sous les coups de feu.
Donc parce que les forces de l'ordre ouvrent le feu.
Oui. La stratégie sur ce Grand Pré est une stratégie qui est très intéressante. Les mineurs vont successivement faire des flux et des reflux pour attirer les forces de l'ordre un peu plus bas, hors du puits. Mmh. Et c'est ce qui va se passer. Effectivement, il y a un groupe d'un détachement de gardes mobiles qui s'aventure beaucoup trop loin sur la pente et qui se trouve coincé entre les FTP d'un côté et les manifestants de l'autre. Mmh. Il ne faut pas oublier que Jules Moc avait donné dans les jours qui précédaient l'autorisation de tirer avec des munitions réelles. Ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent.
Sans limitation, c'était pas en cas de...
À condition de faire des sommations, mais en fait, dans des conditions où ils étaient, il n'était pas possible de faire des sommations. Et donc, par panique, les soldats vont tirer.
Ah, donc un tir réel.
Alors... Les résultats de ces tirs sont assez complexes à établir. Ce que l'on peut dire, c'est que deux choses qui sont essentielles. C'est que cet événement est devenu un événement extrêmement médiatisé parce que la presse nationale et la presse internationale est présente. On savait, par les médias, on savait que l'engagement de Campfort serait déterminant ce jour du 22 octobre. La veille, on a des représentants de France Dimanche, du Daily Express, du United Press, d'Associated Press qui sont venus et qui se sont installés sur le fameux crible lavoir du banc dont je parlais tout à l'heure, qui était un immense bâtiment qui permet de dominer cet espace du Grand Pré. Et puis il y avait les actualités Pathé-Gaumont qui ont fait un grand nombre de films.
Ça veut dire que, d'une certaine façon, les médias, à ce moment-là, choisissent la région stéphanoise par rapport à d'autres sites, je ne sais pas, je pense aux Cévennes ou au Nord-Pas-de-Calais. Ça veut dire qu'il y a eu plus de violence dans la région stéphanoise qu'à ce moment-là ?
Ça veut dire qu'ils ont été informés. Alors ça, nous ne le savons pas, et qu'ils ont été pris en charge Et ça, j'ai eu un témoignage oral là-dessus, par la CGT.
Pour venir.
Pour venir. Parce que c'était évidemment pas simple pour un journaliste étranger de savoir où il fallait venir et quel était l'endroit stratégique sur lequel il fallait qu'ils s'installent. Ça ne pouvait qu'être des mineurs et des syndicalistes qui pouvaient le faire.
Alors ça veut dire qu'à ce moment-là, la CGT croit que la grève peut être victorieuse. Que bien si sûr. Les mineurs reprennent le puits de Campfort, la grève peut être victorieuse.
Bien sûr, parce qu'il y a eu un élément qui a pesé très lourd dans cette certitude dont tu parles. C'est que le 19 octobre, les forces de l'ordre se sont présentées à la Rue Camari, devant les puits d'Yèvre et Saint-Dominique. Et le puits était fermé et le puits était en état de défense. Or, il faut bien se souvenir que la Rue Camari, dans les mémoires, c'était la fusillade du Brûlé.
D'accord.
Et devant la résistance des mineurs, le préfet a donné l'ordre aux forces de l'ordre de ne pas donner l'assaut. Autrement dit, à cette occasion, à la Rue Camari, les mineurs étaient restés maîtres chez eux. Et à Campbefort, les mineurs avaient la certitude qu'ils allaient pouvoir reprendre le puits et rester les maîtres.
Bien, alors revenons à cette... on peut revenir, c'est intéressant, on est obligé de faire des rapports pour comprendre sur les différents lieux, mais si on revient maintenant sur le Grand Pré, donc, il y a donc un groupe de l'armée qui est là présent, tire, et c'est là qu'il va y avoir qu'Antonin Barbier va être tué.
Oui. Les premiers coups de feu ont retenti vers 15h45 et ils se sont arrêtés à 16h30. Ce sont les rapports de police qui nous l'indiquent. Mmh. Donc trois quarts d'heure de coups de feu, c'est beaucoup. Quand on a voulu compter les victimes, on s'est aperçu que ça faisait beaucoup de monde. Il y a eu 9 gardes républicains qui ont été blessés, 2 gardes mobiles. Et du côté des grévistes, 30 blessés. Alors, sur ces 30 blessés, beaucoup par éclat de grenades, mmh. La grande majorité, mais plusieurs par balles, Barbier, Goyot, Boulin, Antoine Faure, qui était âgé à l'époque de 17 ans, et très rapidement, on apprend que le mineur, Antonin Barbier, est décédé.
Alors, c'est à propos de ce décès que tu veux nous faire... tu as un nouveau témoignage.
Oui, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer les membres de la famille d'Antonin Barbier, sa fille, Marinette, et puis un oncle, André Perrineau-Chinchin. Alors, André Perrineau-Chinchin est toujours vivant, lui aussi est une personne... qui est âgé, il a 89 ans. Vous verrez, l'audition, elle aussi nécessite de faire attention, de bien prêter l'oreille. Mais ce sont des détails extrêmement savoureux parce que André Perrineau-Chinchin a accompagné Antonin Barbier.
Et justement, mon oncle Barbier, là, il dit, envoyez-moi un canon avant de partir là-haut. Il se battait pas parce que hein, il avait la silicone, il n'était pas reconnu parce qu'on parlait pas de silicone, mais il, enfin bon, et il dit mais on va voir quand on vient boire là-bas, je sens boire. Il dit non, 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 on va le boire là parce que des fois c'est le 30 dernier qu'on boit. Et ben on a dit si tu veux, on était là, et puis on est parti, et on a tous bagarré, on se bagarrait, et puis c'est que les autres étaient débordés, ils ont demandé une trêve.
Qui, les CRS?
Les CRS. Ils voulaient parler aux délégués.
Comment ils faisaient pour demander une trêve?
Ah ben, je sais pas. À tous les cas, c'est comme vous allez, attendez, il y a une trêve, ils ont. Et ben, on a attendu un moment, moi, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, j'en sais rien. Et puis les délégués sont venus. Et pendant ce temps, on voyait que les autres, ils étaient en Chine, on leur apportait des musettes, puis des caisses. C'est que les autres, ils n'avaient plus de munitions. Et pendant qu'ils ont fait la trêve, on les a machinés. Alors quand ça a recommencé, ça y allait, non? Et puis ça s'est retourné à reculer quand ils ont reculé, puis c'est là qu'ils ont tiré. Alors, il y en a un, ils ont dit, il tient dessus, on est parti.
Vous dites, quand ça a reculé, c'est qui reculait? Les mineurs?
Les CRS reculaient vers lui. Et quand ils ont vu qu'ils reculaient vers lui,
ils ont pris balle.
Ils ont tiré. Et il ne peut pas bien en dire, parce qu'après, on s'est sauvé, on a, hein, je vais pas vous dire qu'on est que 20 ans, mais on saute. Et puis quand on est arrivé sur la route, il y en a un Fayol, Perron, il m'appelait, il m'a dit, Dédé, écoute, je veux te dire quelque chose. C'était avec mon cousin Chatard. Il dit, toi là, il est blessé. Je dis, il est blessé? Oui, il était où? Il m'a dit, ben il était là, mais il était blessé, il est blessé. Il est où? Et ben il est à l'hôpital.
C'est quel hôpital là dont vous parlez? L'hôpital
féminin.
Qui était tenu par les sœurs là.
Il y avait encore des sœurs.
L'hôpital des mines, hein.
Non,
les mines, c'était à la Chaux là-bas.
Oui, c'était pas la Chaux.
Non,
c'était ici qu'ils l'ont amené. À l'hôpital d'ici. Et puis il y en avait plusieurs, il y avait la Goyot, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait?
Les blessés ont été emmenés à l'hôpital.
À l'hôpital, il y en avait des forains aussi. Et puis il y en a qui ont été pensés ou dispensés en avant.
Oui.
Parce qu'ils avaient jeté des grenades, je ne sais pas comment ils appelaient ça.
Lacrymogènes.
Mais des grenades défensives, offensives, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a beaucoup, pas de petits éclats qui avaient été blessés. Oui, il y en a eu des blessés, on n'a pas su ça.
Le dispensaire, c'est celui qui est rue Calmette. Le dispensaire, c'est le.
Dispensaire des mines, là.
À côté de Malafolie.
Ouais, Malafolie.
Les bureaux, là.
Ouais, dans les bureaux, là. Ouais. L'infirmier, il les pensait, tout. Il pensait les mineurs, les.
Et vous êtes allé voir votre.
Après, moi, je suis parti tout de suite à l'hôpital, mais on ne peut pas le voir, on n'a pas pu le voir. Parce qu'ils n'ont pas laissé rentrer, hein. Et puis après, nous avons moi, ils l'ont emmené chez lui, à Fayol.
Le soir, ils l'ont emmené chez lui.
Ouais, ils l'ont emmené chez lui, c'est le soir. Ils l'ont redescendu
pour lui faire l'autopsie.
Le soir même ou le lendemain, l'autopsie?
Le lendemain. Et on lui faire parce qu'il disait que c'était pas les soldats qui avaient tiré.
C'était les mineurs qui tiraient.
Vous avez entendu dire ça de ma part de qui? À cette époque-là.
C'était des rumeurs.
C'était des rumeurs qui passaient. C'était la. Comment maintenant la police, ils disent. C'était sûrement. Ils disaient que c'était pas. Mais c'était pas là. C'était un. Machin. Là-bas, là. Parce que mon oncle, il marchait toujours comme ça, tenait sa veste. Et là-bas, la piquait là. Elle a juste machiné le médecin. Elle a dit, si elle avait tapé là, il serait peut-être pas été mort.
Oui.
Elle lui a traversé le foie, elle a sorti derrière.
Elle a traversé le foie?
Carrément traversé. Le corps, tout.
Et vous pensez qu'elle est ressortie et qu'elle a blessé quelqu'un d'autre? Vous savez pas.
Je sais même pas où il était mon oncle, qu'il était en bas sur le chemin, parce que lui, il pouvait pas se battre, il souffrait trop. D'abord, quand on a fait l'autopsie, moi, le père de ma femme, il était chef fossoyeur au cimetière, concierge. Avec le médecin légiste, il se voyait souvent, il était bien mis quand il faisait des machins. Alors il lui a demandé à assister. Alors le machin a dit oui, Mignon, on l'appelait Mignon. Il a dit oui, Mignon, vous venez. Et quand il a machiné, il a dit ben, pour respirer, il a bataillé parce qu'il est silicosé à plus de 100%.
Les poumons.
Il a les poumons pleins de charbon. Et à ce moment, c'était pas. Ils n'en parlaient pas de la silicose ici. À l'époque, il y avait des.
Il a assisté à l'autopsie
Oui, il a assisté.
Oui.
Il y a que lui, il y avait lui, puis je ne sais pas qui.
Donc la balle a frappé le foie.
Elle a percé le foie, oui.
Ouais.
Là, son poignet était là, comme ça, la balle le passait carrément.
D'accord. La veille, sa fille l'avait fermé dedans.
Oui.
Elle a dit, je ne veux pas qu'il aille à la réunion. Il est fatigué comme tout. Alors elle l'avait fermé la tête dedans avant de partir. Et puis le lendemain, ils ont dit, oh, ça craint rien, ils ont demandé une trêve, c'est qu'une réunion comme ça. Alors il l'était.
Et il en est arrivé là-bas. Puis,
alors, vous dites qu'il n'était pas sur le Grand Pré, il était.
Oh non, il n'était pas sur le devant, lui, il ne pouvait pas. Il est à peu près comme moi maintenant, moi s'il me fallait monter la côte, moi je ne peux plus.
Il était sur le chemin.
Il était sur la route en bas. Et sur la route en bas. Il a été touché, il aurait pu en avoir.
Une balle qui est partie. Oui.
Parce qu'ils ont tiré, hein, ils ont pas.
Ouais,
ils ont tiré comme ça, ils n'ont pas, hein.
Ouais. C'était pas un exalté, hein. Ceux qui s'en vont en avant tout.
Il avait 44 ans. Hein? Et avec ce qu'il avait dans les poumons, ben, il risquait pas de courir.
Oui.
Et puis il a toujours été à gauche, hein? Depuis que je connais, moi, depuis que je suis gauche, j'avais toujours d'abord, mais il faisait pas partie de...
Oui,
il n'est pas parti du Parti communiste, ni rien. Comment ils ont dit qu'il faisait partie du Parti communiste. Il n'a jamais fait de politique. Il faisait sa politique tout seul. Voilà. C'était son idée, il était...
Il disait, quand je vais mourir, moi, tellement qu'il y aura du monde, les chevaux, ils arracheront les pavés de Fayol. Alors, il n'y en a pas les pavés, c'est le boulevard.
Bien, alors, cet entretien est saisissant quand même, hein, parce que... C'est très émouvant, quoi. C'est quelqu'un qui parle de la mort de son oncle. Alors, voilà. Alors, il y a cet aspect individuel. Et puis, l'autre aspect... Alors, l'aspect individuel qui est très émouvant. Il y a plusieurs blessés. Il va y avoir... Donc, il y a un mort et puis quelqu'un qui est blessé et qui va mourir quelques temps plus tard.
Quatre ans plus tard. Marcel Goyot.
Bon. Et puis... Alors, cette fusillade contraint les mineurs à se retirer, à arrêter le combat ?
Oui. Immédiatement, quand les mineurs se sont rendus compte qu'il y avait des blessés graves, on voit sur les actualités de l'époque, là, de Pathé-Gaumont, les mineurs s'enfuir. Et puis ensuite, transporter les blessés jusque dans les ambulances.
D'accord. Alors... là, on va passer peut-être à, parce que ça marque c'est l'annonce de la fin de la grève.
Oui, l'enterrement a eu lieu le 25 octobre. Ça a été une convergence assez extraordinaire, sans précédent, de tous les mineurs de Saint-Étienne, de Roche-la-Molière sur Firminy. De la même façon, au Puy-Couriot avait lieu une commémoration. Et on peut dire qu'à partir du lundi, les esprits ne sont plus des esprits qui sont aussi belliqueux qu'ils l'étaient auparavant. Peu à peu, on voit les mineurs douter de leur combat. Certains, les jaunes, reprennent le travail. Les plus déterminés ont beaucoup de peine à mobiliser les énergies. Et on va dire qu'à partir du 10 novembre, peu à peu, le travail reprend, principalement à Roche-la-Molière, puis progressivement sur Saint-Étienne, mais pas au Puy-Couriot.
Donc, cette grève, en fait, se termine par un échec et va laisser des... Comment dire ? Va avoir des conséquences très douloureuses. Bon, moi, j'ai lu les mémoires de Jean Rochatin, pour qui cette grève reste comme un souvenir très douloureux. Jean Rochatin, qui était à la CFTC, mais je suppose qu'à la CGT aussi, cette grève va, même si on a magnifié le courage des mineurs, même si on a organisé de grandes obsèques, cette grève va laisser des souvenirs très, très durs à supporter.
Oui, d'autant que la répression judiciaire est intense.
Oui.
Elle se fait jour à partir du 15 novembre et elle permet de poser des questions sur les origines des balles qui ont été tirées et on voit progressivement que le pouvoir impose sa doxologie. En effet, le lendemain du 22 octobre, les journaux qui paraissent, voire la radio officielle, dit que ce sont des balles qui ont été tirées par les CRS. Et puis à partir du dimanche, le préfet impose une autre opinion. Et tous les journaux de la semaine qui vont suivre montre qu'en réalité on avait parlé trop vite et que les balles ont bien été des balles qui sont venues de la part des mineurs eux-mêmes. Et lors des procès, puisqu'on parlait des procès là, bien qu'il y ait des dépositions sous serment, on voit les officiers raconter une version des événements qui n'est absolument pas plausible, mais qui va être celle qui va l'emporter.
Et alors, je suppose que la répression se traduit par des arrestations, des mises en prison, des licenciements, des...
Oui, il y a 18 délégués jour et 40 délégués fonds qui ont été révoqués, c'est-à-dire quand on dit révoqués, ils ont perdu leur travail définitivement. Oui. Un grand nombre de peines de prison et un grand nombre de peines en appel, parce que le ministère public a estimé que le tribunal correctionnel de Saint-Étienne était trop clément. Et les demandes en appel sont jugées évidemment à Lyon. Mmh. Et toutes les demandes en appel ont majoré le nombre de jours de prison et les amendes.
D'accord.
Alors dans le livre de Sangdols, on a une liste du nombre de licenciements. Joseph Sangdols en a répertorié 223. En fait, il est bien loin du compte. C'est sans doute beaucoup plus de 400.
Sur la Loire.
Sur la Loire.
D'accord. Ce qui est, c'est très important. Il y avait en gros, il y avait combien de mineurs à l'époque ?
25 000.
Oui, il y avait beaucoup de mineurs. Mais oui. 400 révocations, c'est très important. Alors, je pense maintenant qu'avant de terminer l'émission, il faut que tu nous dises quelques mots du Puy de Campfort actuellement. Et puis, on la terminera ensuite avec un chant, tu pourras nous en dire deux mots également, qui est un chant de mineur. Vas-y. Alors
ce site du Puy Campfort, chacun d'entre nous peut aller le fréquenter, puisque c'est le site qui est occupé actuellement par Emmaüs. Il y a là, dans ce lieu, 60 compagnons qui sont hébergés sur les 72 qui existent dans la Loire. Puisqu'il y a dans la Loire deux autres lieux, des compagnons d'Emmaüs, un à Montbrison et un autre à Saint-Étienne. Alors c'est bien ce lieu qui est le lieu le plus important, parce qu'on a là tout à la fois un lieu de réparation des objets qui sont remis aux compagnons d'Emmaüs, donc réparation de meubles, remise en état des vêtements, et puis un lieu de vente qui est l'ancien lavabo. Mmh. Parce qu'il faut dire que des anciens bâtiments miniers, il n'y en a que deux qui ont disparu. C'est le chevalement lui-même et c'est le bâtiment des compresseurs. Mais tout le reste est présent et réutilisé. Il y a au total, sur ces 60 personnes, 52 personnes qui n'ont pas leur papier. Dont des familles avec des enfants. Il y a deux familles avec des enfants qui sont hébergées. Tous ces gens travaillent, évidemment. Ils sont rétribués à la hauteur de 400 euros par mois et sont logés et nourris. Cette situation me paraît très très intéressante dans une période où nous nous posons tous la question de des sans-papiers, des immigrés qui viennent et qui espèrent en nous, je dirais que c'est une manière de les accueillir qui est extrêmement digne, puisqu'on leur fournit du travail, on leur fournit un petit salaire, et que grâce à ce salaire, on peut plaider des dossiers en préfecture pour obtenir une régularisation de leurs papiers. Il y a une personne qui s'occupe de l'encadrement qui s'appelle Lisette, qui a cette caractéristique de s'occuper d'eux-mêmes et d'obtenir leurs papiers. Alors, vous devinez que la demande pour être accueillie sur ces lieux est extrêmement forte. Voilà pourquoi il y a des travaux qui vont être entrepris. Au-dessus des lavabos, il y a un aménagement qui a été réalisé pour faire des chambres. Et puis la grande salle de réunion qui ne sert pas beaucoup va elle-même être transformée en chambre, 8 chambres supplémentaires. La maison du gouverneur qui est intéressante sur le plan de l'archéologie industrielle mais qui est en mauvais état sera peut-être démolie pour être construite et réaménagée pour accueillir cette fois des familles. Et puis il y a une demande de permis de construire pour construire un nouveau bâtiment à l'entrée du site, là du portail à gauche, pour accueillir aussi encore du monde.
D'accord. Alors, est-ce qu'on a le temps de passer quelques... le début de Mineurs de France?
Et oui, alors une chanson emblématique, hein. Salut à vous Mineurs de France, qui a été une chanson qui a été écrite par Gabriel Maritain en novembre 48, alors qu'il était à la prison de Bellevue.
D'accord.
Révolté de dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits, les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui. Leur droit était bien légitime, inscrit dans la Constitution. Les travailleurs des champs des villes ont dit mineurs, oui vous avez raison. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau. Bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifique de gloire, du Nord jusqu'au Midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Sublime exemple, salut à vous, vaillants mineurs.
Mais un jour, des troupes mercenaires ont fait une ignoble répression. Assassins, ils ont tué vos frères en jetant des centaines en prison. Oh vous, parjure couvert de honte, aux mains rougies du sang français, vous traînerez jusqu'à la tombe l'ignominie de vos tristes forfaits.
Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau. Bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifique de gloire, du Nord jusqu'au Midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Gloire à vos morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants.
Furieux devant la résistance, ils déclarent la guerre au berceau. Les enfants, aux suprêmes espérances, furent victimes des ignobles bourreaux. Jamais nous n'oublierons ce crime, le plus ignoble des méfaits. Tremblez, tyrans, c'est la limite, car maintenant le peuple entier vous hait. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau. Bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifique de gloire, du Nord jusqu'au Midi. À vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Bravo mort, sublime exemple, salut à vous, vaillants mineurs.
Va mineur,
marche en pleine lumière, sur la route de ta belle histoire. Jalonné par tant de luttes acerbes, fais flotter bien haut ton étendard. À ton exemple de courage, bravant tous les manques et leurs chiens. Unis pour la lutte finale, le peuple en marche triomphera demain. Salut à vous, mineurs.